France Info.
Bonjour Bernard Werber.
Bonjour Elodie.
Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un écrivain loupe, car vous avez cette particularité de nous offrir des ouvrages qui nous permettent de mieux voir ce qui se passe à nos pieds ou autour de nous et que nous ne voyons pas, soit parce que nous n'y prêtons plus attention, soit parce que nous manquons cruellement de temps pour l'observer. C'est votre trilogie des fourmis qui est le point de départ d'une relation étroite avec les lecteurs, un pari fou réussi qui a montré que vous avez bien fait de vous raccrocher à votre rêve d'enfant malgré de nombreux refus au tout début auprès des maisons d'édition. Vous aimez mêler la spiritualité, le polar, en incorporant la biologie, la mythologie, parfois la science-fiction aussi, pour ne pas dire très souvent. Vous aimez toucher à tous les styles, avec quand même un besoin d'aborder des thèmes sérieux, toujours liés à un questionnement autour de ce qui nous est le plus essentiel, la vie. Aujourd'hui, avec votre dernier roman, La Voix de l'Arbre, paru aux éditions Albin Michel, vous avez décidé de nous parler du roi du règne végétal, l'arbre, et plus exactement de la forêt. Dans ce roman, vous nous plongez en plein cœur de la forêt du Ciron, au cœur des Landes, à une quarantaine de kilomètres du sud-est de Bordeaux, la forêt la plus ancienne de France. Aymeric et Rose sont randonneurs. Lui veut absolument faire découvrir cet endroit à Rose. Selon lui, cet endroit est magique. Pour lui, c'est le monde pur des origines avant que l'homme ne le souille. Le décor est clairement posé dès le départ. Aymeric est effectivement fasciné par un chêne qui a 2127 ans, mais ça ne va pas être forcément au goût de Rose, qui elle est moins sensible, voire pas du tout sensible à cet arbre majestueux. C'est le drame. Aymeric meurt, mais je vais m'arrêter là. Rose va avoir quelques déboires, mais je vais m'arrêter là. Ce roman, c'est avant tout, j'ai l'impression, une reconnexion avec ce qu'il faut savoir préserver et presque délecter.
Les forêts, les arbres. Peut-être parce que notre période est très électronique, informatique, avec plein d'écrans et de stimuli rapides. Il est intéressant de revenir à la nature, à cette lenteur. Qu'est-ce qui peut être plus lent qu'un arbre qui pousse? Il y a une sorte de logique, back to the tree, retour de là d'où on vient. On vient des arbres. Nos ancêtres vivaient dans les arbres avant d'être dans des cavernes. C'est juste un retour à l'énergie primitive.
Il y a un petit clin d'œil dès le départ à Mathias Malzieu. C'est comme tout poète, quelqu'un qui s'émerveille de tout. Vous vous émerveillez de plus en plus, j'ai l'impression, Bernard Werber. Ça a commencé avec ces petites bêtes, donc les fourmis, très importantes finalement, notre écosystème. Et d'ailleurs, encore une fois, il faut se replonger dans cette trilogie pour mieux comprendre qui l'on est. Mais j'ai le sentiment qu'au fil du temps, ce parcours initiatique que vous racontez dans cet ouvrage, qui est très important, vous le vivez.
Peut-être que ça vient d'une fascination enfant pour les fourmis. Le premier moment où je suis resté une heure à observer quelque chose dans la nature, normalement les enfants s'amusent avec des objets qui vont vite, je regardais une ville. Et ce qui allait vite, c'était ses habitants. À partir des fourmis, je crois qu'il y a juste eu cette idée. Il faut sortir du monde humain pour mieux comprendre l'humanité. Donc les fourmis, c'était la vision à partir de l'infiniment petit des insectes. Et là, la voix de l'arbre, c'est à partir de l'infiniment grand des arbres. Mais les deux espèces étaient là avant nous. Et il y a une réflexion aussi sur la raison pour laquelle notre espèce, qui est très jeune, va peut-être courir à sa propre fin et comment faire pour la sauver.
Vous nous racontez effectivement l'histoire des arbres. Vous distillez d'ailleurs plein d'informations. Ça, c'est aussi une particularité que vous avez. Vous aimez nous apprendre des choses, en tout cas nous plonger dans du concret, dans du réel. C'est là où d'ailleurs ça devient très compliqué. Vraiment, on se dit, mais on navigue dans le vrai ou dans le faux. Les arbres sont apparus il y a 385 millions d'années. Au départ, ils ressemblaient à des fougères géantes, même si a priori, avec un tronc, si j'ai bien tout compris. Ouais. Elles mesuraient jusqu'à 30 à 40 mètres de haut. Ce qui est important, et vous le précisez, c'est qu'elles ont totalement modifié l'atmosphère terrestre. Ça raconte ce livre, en fait, l'importance de ces arbres qui sont essentiels pour qu'on puisse continuer à vivre sur cette Terre.
Ce sont les poumons de notre planète. Si les arbres n'étaient pas apparus avant nous et n'avaient pas produit de l'oxygène, les mammifères ne seraient pas apparus. Donc nous devons aux arbres notre propre existence d'espèces. Actuellement, notre survie dépend de l'existence des forêts, et tout spécialement des forêts anciennes, parce que les plantations, enfin, j'évoque un peu ce sujet dans La Voix de l'Arbre, c'est que les plantations de pins ne produisent pas beaucoup d'oxygène, alors que les forêts anciennes, parce qu'elles sont diversifiées, parce qu'elles ont des racines qui vont profondément, font travailler la terre, font travailler l'air, et nous protègent de toutes sortes d'intempéries, donc par exemple, nous protègent des inondations, nous protègent des incendies. S'il y a autant d'incendies de forêt, c'est parce qu'on a mis des pins, que les pins sont des résineux, alors que les forêts anciennes sont des feuillus, et les feuillus, ça résiste très bien au feu. C'est juste que c'est l'intervention de l'homme, c'est notre volonté de changer l'univers végétal qui crée problème et qui risque de créer des difficultés pour que nous respirions à nouveau. de l'air pur.
Cet arbre, il est très symbolique, mais il est le lien avec tout. Rose, elle va justement devoir prouver qu'elle n'est pas à l'origine du décès de son compagnon, Aymeric, qu'elle aimait profondément. Et donc, pour ce faire, elle va comprendre que la clé, c'est justement cet arbre qu'elle a, entre guillemets, rejeté au départ. Et elle va rencontrer un botaniste, Sylvain. Il a un appareil qui va écouter les arbres. En fait, il a créé une machine qui va écouter les arbres. C'est assez fascinant parce que déjà, on sort un peu de tout ce qu'on pensait savoir et on apprend que les arbres communiquent entre eux, qu'ils envoient des particules et que donc ils sont capables de se connecter pour raconter qu'il y a une maladie ou quelque chose.
Ils s'avertissent entre eux.
Et en même temps, ils émettent des parfums. Et finalement, ce livre, là où il est très intéressant, c'est aussi là-dedans, c'est le parallèle que vous faites entre l'humain, la quête qu'il peut faire et l'importance justement de bien écouter le monde qui nous entoure.
On est en train de se couper de la nature. Du coup, c'est pour ça que les gens commencent à faire des dépressions. Mais c'est en fait, il y a un soin pour n'importe quel problème psychologique, c'est d'aller dans la forêt, de marcher. L'idéal, ça serait de marcher pieds nus pour se reconnecter à la terre. Les forêts produisent en effet ce que vous évoquiez. En fait, c'est des phytoncides, c'est des toutes petites particules. Et quand on les respire, ça nous fait du bien, ça nous soigne des maladies. Et c'est pour ça, par exemple, qu'au Japon, ils sont aperçus qu'on pouvait soigner certaines maladies psychologiques en envoyant les gens dans les forêts. Et il y a de plus en plus de pays qui décident qu'il y a des forêts qui servent de lieu de thérapie. C'est un endroit qu'il ne faut pas du tout négliger. Je crois que le mal-être dans nos sociétés modernes vient du fait qu'on s'est coupé des forêts parce qu'on détruit les forêts et on n'y va plus. Quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter, il faut aller se promener en forêt. Voilà l'un des conseils que j'ai essayé de transmettre. Mais les arbres communiquent entre eux parce qu'ils s'aident. Ils forment réellement une communauté. Il y a sous terre tout un réseau qu'on appelle le réseau mycorhizien. C'est des réseaux de très très longs filaments de champignons. Et grâce à ces filaments, par exemple mon chêne, le héros de mon roman, il produit des glands et ces glands, ils vont donner des arbres, ils restent connectés à eux par ces filaments. Mais les chênes, par exemple, restent connectés à d'autres arbres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les enfants et ils s'entraident, ils s'envoient des nutriments, ils s'envoient de l'eau, ils s'envoient des informations et c'est tout un réseau qui peut s'étendre sur des kilomètres carrés. C'est juste quelque chose qu'on ignore et qu'on vient de découvrir depuis peu de temps.
Quand on ouvre les pages, ce qui touche et bouleverse, c'est qu'on a l'impression d'être dans le décor et de sentir les odeurs des arbres, des feuilles, même des champignons quand vous en parlez. On voit la mousse par moment.
Il y a cette idée que la forêt, enfin, dans l'écriture, il faut la ressentir avec les cinq sens. Donc en effet, une forêt, c'est pas juste un arbre à voir, parce qu'on a un sens tyrannique, c'est la vue, mais déjà fermer les yeux nous permet d'entendre et de sentir mieux, d'ouvrir les autres sens, et puis toucher. Je crois que naturellement, les enfants ont envie de toucher les arbres, ils ont envie de monter dans les arbres. C'est pour ça que mon héroïne, en fait, elle va créer une petite niche dans un arbre et elle va vivre dedans. Quelle meilleure manière de comprendre un arbre que d'être au milieu de l'arbre et de le sentir vibrer de l'intérieur.
Ça, c'est ce que vous a indiqué de faire Mathias Malvieux, vous ne l'avez pas encore fait. Hein.
Non.
C'est le point de départ d'ailleurs.
Parce qu'il faut que j'arrive à trouver un week-end tranquille pour mettre dans... Et là, j'ai toujours pas trouvé de week-end tranquille. Donc c'est vrai, Mathias est mon frère d'âme. J'ai rencontré ce garçon, c'est un poète, et c'est quelqu'un qui est connecté à la nature. Là, il fait un livre sur les chats, il est connecté à tout ce qui vit. Et quand on se voit, on a l'impression de ne pas être de cette planète. Je crois qu'il vient de ma planète. Mais il y a ce sentiment qu'on peut entrer dans une énergie qui est juste créer des choses de plus en plus originales. Et on a ce même souci, c'est surprendre. Voilà. Pas être dans les modes, surprendre, faire des trucs nouveaux et on s'entretient tous les deux en cette énergie. C'est pour ça que je lui ai dédié le livre.
Ce qui est fort, c'est que la nature, finalement, elle est au cœur de ce qui est essentiel pour avancer, c'est l'humilité. Rose, ça la rend humble.
En fait, la meilleure manière de parler à un animal ou de parler à un arbre, ça consiste déjà d'arrêter de penser comme un humain. Donc, de créer une zone de vide. Je crois que dans l'éthologie, quand on veut apprendre aux gens à parler à leurs chiens ou à leurs chevaux, on leur dit « Attendez, arrêtez le bruit incessant qui est dans votre tête, créez juste une zone de silence dans laquelle va pouvoir venir l'information. » Donc, moi, je m'étais amusé à le faire avec mes fourmis, je vais laisser venir les informations, je m'amuse à le faire avec mon chat, je m'amuse à le faire avec mon chien, maintenant j'ai un chien. Pour ce livre, je me suis tout simplement amusé à le faire avec un arbre. N'importe qui, sans aucune machine, peut poser ses deux mains sur une écorce d'arbre, fermer les yeux et dire « Ok, j'arrête de penser à l'actualité, à ma famille, à mes problèmes de santé, à mes problèmes de boulot, juste je fais le vide. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que me raconte cet arbre ?» Et on peut le faire aussi avec des humains. Vous pouvez prendre un être humain, par exemple, vous lui touchez les mains et puis vous fermez les yeux et vous laissez venir. Nous avons tellement l'habitude d'imposer notre pensée, d'avoir un mécanisme où on se répète tout le temps les mêmes histoires, qu'on vit d'un brouhaha dans notre tête. Moi, le premier d'ailleurs, mais je fais des efforts. Ça peut exister ce moment où on fait le silence.
Ces silences, on les sent dans l'écriture. Comment on crée un silence?
Avec une image, avec une phrase un peu plus longue et une image. Si je vous dis juste regarder un arbre, déjà il y a une notion de silence. Parce que on sait qu'un arbre ça fait pas de bruit et on sait qu'un arbre ça bouge pas. Si je vous dis regardez un cheval qui galope, ça fait déjà un peu plus de bruit. Et si je vous dis un lion qui est en train de dévorer une gazelle, ça fait beaucoup de bruit. Et c'est juste des images. Les images ça fait du son.
Dès les premières pages, un mot qui résonne, c'est le mot paix. À travers un laïus autour du temps, il y a un temps pour tout, pour planter, pour récolter, pour blesser, pour guérir, pour rire, pour aimer, pour haïr. La nature est-elle la clé pour se retrouver et nous permettre effectivement de parcourir un chemin initiatique nécessaire à l'apaisement?
J'ai envie de vous dire oui. Mais vous avez envie que je développe peut-être un peu. Vous savez, une fois, j'étais en Corée, et à la fin de ma conférence, on m'a mis à côté d'une jeune fille qui voulait se suicider parce qu'elle n'arrivait pas à réussir son examen. Et elle me dit, allez-y, qu'on est capable de pas se suicider. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Et surtout qu'il y avait des caméras qui me filmaient en même temps. Je me suis dit, bon, si j'y arrive pas. Et j'ai dit d'abord aux caméras de partir, puis j'ai dit juste, ça vous dirait pas de revenir à la nature, de juste marcher en forêt? J'ai juste dit ça, retrouver les sens, sortir juste des examens, parce qu'elle avait peur de rater son examen. Elle était déjà première de la classe. Mais mettait une telle pression qu'elle avait peur de rater l'examen au point de vouloir se tuer. Je lui ai dit juste, va marcher en forêt. J'ai envie de dire à tous les gens qui se posent trop de questions ou qui rentrent en phase de surchauffe, voilà, allez refroidir, allez juste retrouver, toucher la nature, renifler, et puis rappelez-vous que vous êtes juste un être vivant au milieu d'autres formes de vie. Vous pouvez vous connecter à ces autres formes de vie et que ces autres formes de vie ne sont pas inférieures. Un arbre, ce n'est pas de la matière première pour faire un meuble. Un arbre, c'est vraiment une entité qui peut produire des enfants, qui peut grandir, qui peut vibrer et produire une vibration que vont recevoir les autres formes de vie. L'un des déclenchements de l'écriture de la voix de l'arbre a été la découverte de l'expérience de Clive Baxter, qui est un monsieur qui était criminologue, qui travaillait pour la CIA, aux machines qui servent de détecteurs de mensonges. Il a eu l'idée de mettre son détecteur de mensonges, c'est les années 60, sur son dragonnier, sa plante grasse d'appartement. Et il s'est aperçu que lorsqu'il mettait des crevettes dans l'eau bouillante, chaque fois qu'une crevette mourait, l'arbre avait un petit bond. C'est-à-dire que l'arbre percevait, son petit arbuste, percevait la mort d'autres formes de vie. Une forme de vie vraiment très différente, une forme de vie aquatique et animée. Et là, il a commencé à se dire, mais peut-être que les arbres ont une conscience. Alors, vu qu'il n'était pas un scientifique, n'était pas un botaniste, il n'a jamais été pris au sérieux, mais ses expériences sont réelles, et il y a des films, on peut le voir. Et c'est là où je me suis dit, peut-être prenons le problème par la base, et si les arbres étaient intelligents, et s'ils avaient une conscience, et s'ils percevaient notre existence, et s'ils percevaient aussi notre mort.
Cette forêt montre un chemin à Rose, mais elle nous montre un chemin aussi à nous. Par exemple, cette histoire de forêt, ça oblige à nous poser la question de savoir quelle est notre propre forêt primitive, c'est-à-dire celle de nos débuts. Et donc, elle va avoir envie de creuser là-dedans et essayer de mieux comprendre qui elle est. C'est un travail d'introspection, en fait.
Exactement. Vous savez, les tests sur les enfants, on leur demande de dessiner des arbres pour voir si les racines qui sont leurs origines sont profondes. Voilà, c'est la base de la psychanalyse un peu. Et puis, voir si les branches montent haut. En effet, nous avons tous un arbre en nous. Mais il y a une partie végétale, il y a une partie minérale en nous. La partie minérale, c'est les dents. Et la partie végétale, c'est nos os. Nous avons un arbre en nous qui est notre colonne vertébrale. Et je vous en parle d'autant plus que j'ai une maladie. Ma colonne vertébrale se soude. Donc, mon arbre est en train de se durcir. Et j'ai tout le temps conscience de cette colonne qui est en moi, qui va un jour me condamner, mais qui, pour l'instant, me laisse vivre, mais je perçois l'arbre qui est en moi, oui.
À la fin du livre, il y a une analogie qui nous frappe. Adam et Ève devant l'arbre de la connaissance. De fait, c'est par lui que nous devons concevoir l'avenir de l'humanité. Cette espèce de laïus termine le livre et il y a un mot qui apparaît, c'est le mot agir. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir.
Agir pour sauver les forêts, oui, parce qu'elles sont en danger. Actuellement, on dit qu'il y a autant de forêts qu'au Moyen-Âge. En fait, non. Les forêts sont détruites pour être remplacées par ces plantations de pins.
Et il y a un coup de gueule à la fin, on va être très clair. Vous mettez quelques pages, c'est un peu un coup de gueule. Vous vous adressez justement aux aberrations qui vous heurtent.
Le truc qui m'a vraiment scandalisé, c'est que du fait de la guerre d'Ukraine, on manquait d'énergie. On s'est mis à fabriquer des granulés de bois à partir de forêts anciennes pour mettre dans les centrales thermiques anciennes à charbon. Et on appelle ça énergie bio. C'est juste de la destruction de forêts pour faire de l'électricité dans nos ampoules électriques. Et personne n'en parle. Il y a un coup de gueule. Je crois que les arbres, c'est une cause politique intéressante. Les forêts sont une cause politique intéressante. Et là, on est en train de se perdre dans un brouhaha de débats qui me semble complètement stérile. Alors qu'il y a quand même un moment, il faut juste se rappeler, attendez, on est en train de parler de la préservation de notre espèce. Et on est en train de parler de notre bien-être. Et là, on est en train de tout faire pour couper les possibilités de bien respirer pour nos prochaines générations et des possibilités d'être connectés à la nature.
Dans cet ouvrage, vous racontez les forêts, vous racontez les arbres. Ça devient un monologue, entre guillemets. Mais pour créer un monologue sur les arbres, juste, il faut entamer donc un dialogue. C'est pour ça que ça s'appelle La Voix de l'Arbre. Ouais. Avec eux, avec les forêts, en étant beaucoup plus à l'écoute.
Dans plusieurs de mes livres, en fait, ce que je dis, c'est un problème de communication. C'est-à-dire, tous les problèmes qu'on voit, tout ce que vous voyez aux actualités qui ne va pas, c'est juste des entités vivantes qui ne communiquent pas. Donc, dans les fourmis, j'essaie de dire, et si on parlait à des trucs aussi étonnants que les fourmis? Là, dans La Voix de l'Arbre, je dis, et si on parlait aux arbres? Mais en fait, j'ai envie de dire, si on développait une communication plus authentique, plus simple. Je crois que même si je vous parle actuellement, nous communiquons difficilement parce que nous utilisons des mots qui ont des sens différents pour chacun et parce qu'il y a tous des arrière-pensées que nous n'arrivons pas à transmettre. Moi, je rêverais de faire cette interview par télépathie et encore plus de pouvoir communiquer à travers la radio, juste émettre une onde dans laquelle je puisse expliquer ce que je perçois. Et ce que je perçois, c'est nous sommes en train de perdre notre animalité, nous sommes en train de perdre notre contact à la planète et cela va nous coûter très cher. Donc j'ai envie de dire stop, réfléchissons et trouvons, j'ai pas d'autre mot que harmonie. Faire la paix avec les arbres, faire la paix avec la forêt, faire la paix entre nous et puis nous concevoir comme une espèce mais d'autres espèces. Ce qui veut dire aussi ne plus détruire. Je crois qu'en France, il y a tous les jours 350 000 arbres qui sont abattus. Rien qu'en France, et des millions dans le monde. Pourquoi nous sommes en guerre contre la nature? Et tout ça au nom de la consommation. Tout ça pour faire des Black Friday, des moments où les gens se précipitent dans les magasins parce qu'il y a des promotions. C'est de la folie. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il y a un moment, il faut se calmer déjà. Après, il faut commencer à se parler et les choses pourront s'arranger. Et puis peut-être penser à notre espèce qui doit s'autoréguler. Par toutes les espèces s'autorégulent, nous sommes la seule espèce qui s'autorégule pas. C'est-à-dire, pour augmenter la consommation, nous sommes tout le temps dans un processus de croissance. Et moi, j'ai envie de parler de notre notion, dont j'entends aucun parti parler, c'est harmonie. Non plus détruire les autres, non plus devenir plus grand, plus fort, mais juste se calmer et communiquer, et puis vivre en harmonie.
Votre façon de communiquer, vous, c'est l'écriture.
Ouais.
Vous a sauvé cette écriture, du coup, en quelque sorte.
Oui, parce que depuis que je suis petit, j'ai l'impression que j'ai plein de choses à transmettre. Mais quand je transmettais, quand j'étais élève à l'école, je ne s'intéressais pas forcément les autres. Et là, j'ai mon espace tranquille. J'ai fait mes 400 pages. J'explique avec... Bon, là, c'est comme une enquête policière. J'espère, à travers une enquête à suspense, cette vision de la nature. Et soit les gens y vont, soit ils y vont pas. Après, comprennent qui pourra. Mais pour ceux qui sont déjà dans cette énergie-là, je pense que ça va leur donner des outils pour aller encore plus loin, pour eux-mêmes transmettre. Et je crois que la fonction d'écrivain... J'aime pas trop le mot écrivain. Je préfère le mot de compteur. La fonction de compteur, comme vous savez, il y en avait à la préhistoire. La fonction de compteur est de transmettre et de donner envie aux autres de transmettre aussi. Et c'est pas forcément la musique des mots, c'est juste la puissance des idées.
Toute la symbolique, d'ailleurs, elle est dans cet arbre, hein, qui a plus de 2000 ans. Il y a une transmission. Parce qu'effectivement, vous le racontez, cet arbre, il a vécu toutes les époques. Enfin,
les arbres sont notre mémoire. Vous savez, quand on regarde les cernes, chaque cerne correspond à une année. Et si on regarde les petits sauts, les petits mouvements, on voit les orages, on voit les tempêtes, on voit les incendies, on voit les moments où il y a de la sécheresse, c'est-à-dire que l'arbre a gardé l'histoire de la forêt et l'histoire de la terre. Et nous avons une mémoire sur 100 ans, c'est rien du tout par rapport aux arbres. Et il est intéressant d'avoir déjà du respect pour les arbres, ne serait-ce que parce qu'ils sont la mémoire de notre monde.
Donc se déconnecter, débrancher, en regardant des arbres avec leurs branches, c'est plutôt assez fort quand même comme ouvrage. Pour terminer, au début du roman, sur le t-shirt d'Emeric qui est inscrit « Pour qu'un écologiste soit élu, il faudrait que les arbres votent ». N'est-ce pas une bonne piste, donner le droit de vote aux arbres et à la nature?
En tout cas, oui. L'une des idées que je propose dans le livre, c'est de créer une représentation des arbres à l'ONU, comme si c'était un État, comme si c'était une nation, la nation des arbres. Et d'ailleurs, j'évoque aussi l'existence d'un truc extraordinaire que j'ai découvert en écrivant le livre. L'être vivant le plus ancien et le plus grand de la Terre, c'est une forêt qui est dans l'Utah et qui fait 47 000 peupliers. C'est 47 000 peupliers issus d'une seule graine qui sont tous connectés ensemble et qui produisent une sorte d'énergie d'un seul être. Et ça, c'est la puissance du végétal, donc elle mériterait d'être représentée à l'ONU, je trouve.
Merci beaucoup, Bernard Verber, d'être passé dans Le Monde d'Élodie sur France Info.
Merci,
ce livre,
Élodie.
Il fait du bien, il faut le mettre entre toutes les mains. La Voix de l'Arbre, moi en tout cas, il m'a fait du bien. Il est sorti chez Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci, Élodie.